RFI. Grand reportage.
Rencontre avec la diaspora soudanaise en France. 5 mois après la chute d'Omar el-Béchir, ceux qui ont fui le régime dictatorial de Khartoum et la guerre vivent la révolution avec beaucoup d'espoir, quelques craintes et la douleur d'être loin de l'histoire qui s'écrit. Réfugiés soudanais en France, exil, intégration et révolution, une rediffusion du grand reportage de Domitille Piron.
C'est avant. C'est la vie, c'est pas bon. Mais ici, maintenant, je commence comme moi, même je suis petit. Je cherche autre la vie.
Ahmad Zakaria, comme il dit, souhaite recommencer une nouvelle vie après avoir quitté le Soudan à 17 ans à peine. Le jeune homme est installé à Lyon depuis 2 ans dans un foyer de l'association Forum Réfugiés. Il a obtenu son statut après 1 an d'attente et de procédures administratives. Il souhaite désormais commencer une formation comme son compatriote Ibrahim Adjiro. En jean et dans une belle veste bleue, le jeune homme vient régulièrement à l'association faire un point sur son parcours.
Des stages un petit peu ? Vous cherchez ?
Oui.
Oui, vous cherchez.
Pas pour vous, je cherche. Vous voyez les CV, le temps de prévision.
D'accord. Ibrahim semble avoir une patience à toute épreuve, mais il souhaite commencer à travailler prochainement, car pour lui, le travail est une obligation.
Et mon projet professionnel, c'est l'électricien. Après, je fais ça. Pharmacieux, diplôme, comme ça. Comme l'électricien, c'est un peu difficile et un peu compliqué. Comme le métier, ça ne marche pas, il y a un autre métier, c'est vendeur, le caissier. Après, si tu travailles, il y en a obligatoire le travail.
Le travail proposé aux réfugiés, qu'ils soient soudanais ou originaires d'un autre pays, est bien souvent peu qualifié. Les secteurs dits en tension recrutent beaucoup, comme dans la restauration, le bâtiment et les services de nettoyage. Awad, la trentaine, l'a bien compris.
Je me suis rendu compte que si vous n'êtes pas un vrai technicien ou si vous n'avez pas le certificat, vous allez faire que le sale boulot.
Beaucoup de Soudanais qui arrivent en France ne parlent pas la langue et souvent ils ne parviennent pas à apprendre le français avant d'obtenir leur papier. Chloé Gerber-Cahuzac s'est improvisée professeure de français en découvrant un camp de migrants sous le pont d'Austerlitz à Paris en face de son travail. C'est ainsi qu'elle a rencontré Awad et tout un groupe de Soudanais qui sont aujourd'hui devenus des amis.
En sachant que dans ce groupe il y avait autant des gens comme Awad qui parlait déjà anglais, était professeur, avait été donc très scolarisé, que par exemple Adèle qui ne savait pas écrire dans sa propre langue. Donc le français est la première langue qu'il a appris à écrire. Et il le parle magnifiquement aujourd'hui, mais il y avait quelque chose d'assez héroïque à apprendre ses conjugaisons sous un pont et d'aller s'acheter son becherel avec ses 300 euros d'ada. Enfin, c'était quand même assez incroyable en fait.
Pour les nouveaux arrivants, l'appui de la communauté d'accueil, des citoyens français et des associations est une aide précieuse. Pour les démarches administratives, mais aussi l'apprentissage du français, les sorties culturelles et sportives. Exemple avec Singa, Agnès est bénévole de l'association.
À Singa, il y a vraiment le principe qu'il n'y a pas de gentils membres de la société d'accueil qui donnent à des pauvres étrangers, mais c'est vraiment, on emploie le terme buddies, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau, quoi. On est tous des copains.
Antoine, est-ce que tu veux m'épouser ?
Aujourd'hui, avec un groupe de 10 réfugiés et 10 Français, c'est atelier théâtre d'improvisation.
Eh ben j'y vais. Voilà, vous avez vu là ? Une action, une émotion, enfin une action, une phrase, pardon, et ça s'enchaîne.
Maxime Robert est comédien, il anime bénévolement l'atelier théâtre d'impro.
Ok, c'est clair ?
C'est quelque chose qui met un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. On peut faire un truc ensemble, là, tout de suite, maintenant. Même si on n'a pas la langue en commun, c'est pas grave, parce que du coup, on va travailler sur le langage de la scène, qui est celui beaucoup aussi du corps et des émotions, pas que celui de la langue. Et en plus, ça, il y a aussi une manière de rencontrer d'autres cultures, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou pour les locaux. On découvre l'humour des autres, enfin des autres cultures, j'ai envie de dire, des us et des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Et c'est très drôle.
C'est bon ?
Drôle et très utile selon Bosch Ousmane, réfugié politique soudanais arrivé en France il y a 5 ans.
C'est parti.
Allez, Lyon, allez.
La vie elle-même est une improvisation. Du coup, pour faire la vie, on vient ici pour apprendre comment faire la vie dans la rue. Parce qu'en arrivant aussi en tant qu'exilé, il y a des choses qui ne sont pas très évidentes. On perd un petit peu d'évidence sociale, des codes, tout ça.
Bosch est étudiant, il est donc plus facile pour lui de s'intégrer à la société française. Cette question de l'intégration dépend beaucoup de la vie d'avant et il n'y a pas un parcours type. La communauté soudanaise, qui compte plus de 15 000 personnes en France, est très hétérogène à l'image de la société soudanaise. Mais qu'ils viennent de la capitale ou du Darfour, d'un milieu aisé ou plutôt pauvre ou paysan, tous sont là quasiment pour une seule et même raison. 30 ans d'autoritarisme dans leur pays exercé par Omar el-Béchir. De retour à Lyon, un groupe de réfugiés politiques a créé le réseau des activistes soudanais. Ce soir-là, ils organisent un débat dans un café associatif autour du mouvement de contestation commencé le 18 décembre dernier. Quelle révolution en exil, s'interroge la diaspora soudanaise de Lyon avec de nombreux autres citoyens français.
Bon, bonjour à vous tous et merci au fait de vous être là. En fait, nous les Soudanais en Lyon, peut-être notre réseau Race Lyon, le réseau des activistes soudanais, a commencé en 2016.
Parmi les militants qui participent à ce débat, Ahmad Gamal, avec une casquette type béret toujours vissée sur la tête, les yeux doux et rieurs, Ahmad est très sociable, comme il dit. Entre ses cours en sociologie à l'université, ses amis soudanais malades ou isolés qu'il visite régulièrement, ses activités politiques avec le réseau des activistes et les livraisons à vélo pour gagner un peu d'argent, Ahmad semble ne pas dormir beaucoup. Mais c'est un choix, car il ne veut pas s'arrêter à la manière dont on le présente bien trop souvent. Il ne veut pas être qu'un réfugié.
Le réfugié, c'est une démarche administrative, c'est pas une identité. J'ai pas vu que je suis une victime et je reste toujours une victime. C'est vrai que j'étais une victime à certains moments ou dans un quelque temps, mais je trouve que la situation aujourd'hui s'est changée. Bah, du coup, ça dépend de moi, de faire des forces pour étudier, pour apprendre la langue, pour faire quelque chose pour la société où je habite maintenant, ou pour mon pays aussi également.
Ahmad Gamal était étudiant à Khartoum. Comme beaucoup de Soudanais originaires du Darfour, il a subi des discriminations. En luttant pour ses droits, il a été emprisonné avant de décider de s'enfuir à grand regret et sur une route de l'exil au grand danger. Depuis le début du soulèvement populaire au Soudan, Ahmad est scotché à son téléphone sur les réseaux sociaux. Il regarde beaucoup les vidéos des manifestations et regrette de ne pas être auprès de ses amis, mais il a aussi son rôle à jouer.
Même si on est en France, on peut jouer notre rôle. Et pour ça, depuis les mobilisations au Soudan, on a fait un réseau pour soutenir notre peuple, moralement, financièrement aussi. Nous, là, même si on est en France, même si on est en exil, même si on est loin, le rôle qu'on a joué, c'est le même rôle que sont joués là-bas. Sauf que là-bas, c'est un peu dangereux, c'est un peu difficile des fois. Mais je crois que c'est le même rôle.
Alors en France aussi, les Soudanais manifestent régulièrement dans plusieurs villes de France, comme ce jour-là à Lyon. Dans le cortège, on retrouve les drapeaux verts, rouges, blancs et noirs, mélangés aux drapeaux des jeunes communistes de Lyon qui co-organisent la manifestation avec la diaspora. Le cortège avance derrière une banderole rouge sur laquelle on peut lire en arabe et en français « Solidarité avec le Soudan ». En ce mois de mars 2019, les manifestants clament des slogans contre le dictateur Omar el-Béchir, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et l'on entend également des slogans contre une certaine forme de complicité de la France à l'égard du dictateur. Antoine, des jeunes communistes de Lyon.
Nous, ce qu'on dit, évidemment, c'est qu'il faut accueillir les réfugiés dans des conditions dignes. Il faut le droit au travail, il faut le droit au logement, il faut le droit à un titre de séjour, il faut le droit à la nationalité si les personnes la veulent. Mais surtout, la vraie question derrière, c'est de dire il faut la fin de l'impérialisme. Il faut que les entreprises françaises, elles cessent leurs activités en Afrique. Il faut que les pays africains deviennent réellement indépendants, ce qui avait été la promesse de la décolonisation qui n'a jamais été tenue, pour que dans ces pays-là, les gens puissent vivre dignement.
La France est en train de renvoyer des Soudanais en ce moment, alors même qu'on sait exactement ce qui se passe au Soudan.
Ce qui est dénoncé, c'est aussi le processus de Khartoum, des accords sur la migration conclu entre l'Union européenne et le Soudan, facilitant ainsi les expulsions. Pour Nazar Zaki Sali, un Soudanais arrivé dès 1989 en France, il y a là un véritable paradoxe.
C'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Je suis venu en France, j'étais accueilli de façon, on peut dire correcte, correcte et pas correcte, parce que j'ai dormi dans la rue pendant 3 mois. Maintenant, j'ai mon travail, j'ai ma famille et je suis fier de ce que j'ai construit parce que j'ai commencé à zéro.
Pourquoi c'est paradoxal?
Paradoxal, parce qu'on nous accueille en même temps et soutient le Bachir. Je veux vraiment un politicien qui m'explique ça. Si vous voulez me soutenir, pourquoi vous me laissez prendre le risque de venir jusque-là? Si vous comprenez comme quoi j'ai le droit d'être réfugié dans vos pays à cause de ce régime, pourquoi vous le soutenez? C'est ça qui est paradoxal, vous voyez?
Parmi les personnes de la diaspora mobilisées en France en soutien au peuple soudanais, on retrouve Rami, dont le collectif Aswad a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les photos, les vidéos, les performances et le collage d'affiches, c'est la forme de mobilisation qu'ils ont choisie avec ce collectif en plus des manifs. Ce jour-là, ils ont reçu 500 affiches de l'artiste de rue Ernest. Elles représentent Rami, une chaîne autour du cou devant des barbelés et soulevant un drapeau soudanais. Ils entament donc leur opération de collage dans les rues de Paris avec l'aide de leur amie parisienne Gala. Cette mobilisation des Soudanais à la française a des répercussions jusqu'au Soudan, selon Rami.
Ouais, ils en parlent trop pour ça, ils en aiment ça beaucoup. Ils ont besoin pour nous continuer encore, pour faire quelque chose pour le Soudan, parce qu'il n'y a pas d'aide pour tous les pays. Et c'est pour ça qu'on a fait ça, mais on va continuer comme ça aussi encore.
Mais
pour le soutien pour notre peuple soudanais.
Parce que depuis la France, peut-être que ça peut faire changer les choses là-bas?
Bien sûr, quand on peut toucher les gens ici en France, peut-être on veut changer quelque chose.
On utilise tous les moyens qu'on peut utiliser ici en France, où on risque pas de se faire condamner à mort ou enlever, torturer ou quoi que ce soit pour le faire. Donc voilà, ils essayent, ils expérimentent, mais ils n'ont pas l'habitude, ils savent pas forcément comment faire. Et c'est aussi, du coup, c'est un peu le rôle de nous, Français, un peu qui les entourons, c'est de leur dire, ça chez nous, ça marche et on peut le faire en fait. Et c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de... Voilà, donc on leur apporte un peu les moyens de communication d'ici et les moyens de s'exprimer et de protester.
Après plusieurs mois de mobilisation des Soudanais, la principale source de leur colère, Omar El-Béchir, est destitué. Ce jour-là, le 11 avril 2019, le président soudanais est renversé par l'armée. Pour la diaspora, difficile d'y croire, entre ceux qui avaient quitté leur pays à sa prise de pouvoir en 89 et ceux arrivés dans les 5 dernières années qui n'ont connu que ce régime depuis leur naissance. Après cette annonce, un groupe d'une quarantaine de Soudanais de Paris se sont donc rassemblés devant l'ambassade du Soudan pour manifester leur soutien à leur peuple toujours, mais surtout pour rester vigilants car le président destitué a été remplacé par un militaire. Jafar Mahmoud Sinid est donc passé en l'espace de quelques heures d'un sentiment de joie et de soulagement à de la colère.
We thought that this is kind of like our misery and pain and anger.
Nous avons pensé aujourd'hui que notre misère, notre douleur, notre colère et frustration arriveraient à leur fin. Puis nous avons été surpris, car ils ont simplement changé de siège. C'est pourquoi nous sommes venus ici et nous continuerons la lutte. Je vais envoyer un message clair à la communauté, au gouvernement français et à tous les acteurs internationaux. Ils doivent reconnaître que ce régime, durant 30 ans, a commis les pires crimes. A commencé par mon père, il y a 29 ans, quand ils l'ont assassiné et enterré dans une seule et même tombe avec son frère. Aujourd'hui, j'espérais quelque chose, puis je me suis rendu compte que ça n'était rien. Ce sera la continuation du même régime, de la même mentalité dangereuse, des islamistes qui nous tuent, qui divisent notre pays, qui commettent les pires crimes les plus barbares contre le peuple.
Drapeau soudanais sur les épaules, Anwar Ousmane ne semble pas non plus satisfait de ce changement à la tête du régime. Il a quitté le Soudan après le génocide du Darfour qui a fait plus de 300 000 morts en 2004, des massacres perpétrés par le gouvernement soudanais et les milices arabes. Anwar a perdu toute sa famille à cette époque-là. Aujourd'hui, il attend donc que justice soit faite.
J'ai eu larmes, j'ai pleuré parce que j'ai pensé à ce qui se passait, ma famille que j'ai perdue, les périodes, les moments difficiles que j'ai vécues dans le camp de réfugiés, mes voyages, ce qui se passait avec moi. Mais pour moi, pour soulager, être tranquille et se sentir à l'aise, et il faut que ce soit jugé tous ces criminels en fait. Al-Bashir avec 50 personnes, c'est responsable, c'est gouverneur. Il faut que ce soit jugé comme ça, le Soudan sera tranquille.
Entre deux manifestations, faisons une pause dans le quartier général de la communauté. C'est dans le 18e arrondissement de Paris, entre les rues Pajol et Philippe de Girard, que la diaspora se retrouve, entre les Délices du Soudan, la première épicerie communautaire ouverte en 2010, les magasins de téléphone et les trois restaurants soudanais. Chez Asiaf, les clients boivent du thé et mangent du riz et de la viande cuisinée comme au Soudan. Selon Mohamed, nous sommes ici, en plein cœur de la communauté.
Because you know, it's half two restaurants here in this Rio.
Nous avons plusieurs restaurants ici dans le quartier. Les gens viennent ici pour manger soudanais. Les personnes aussi qui n'ont pas de maison viennent ici pour trouver des gens pour les aider. On vient ici pour s'entraider. Il n'y avait pas vraiment de communauté avant à Paris. Ici, il n'y avait personne pour nous donner à manger. Et il y a encore beaucoup de gens qui dorment dehors. Ici, on essaye de s'entraider.
Dans ce petit Soudan de Paris, les chaînes de télévision arabe tournent en boucle et permettent de suivre en direct les évolutions de la mobilisation. Grâce aux réseaux sociaux également, la communauté soudanaise en France s'implique dans cette révolution à plus de 4500 km de là, en jouant un rôle de vigie.
Je me lève avec le Soudan, je passe ma journée avec le Soudan, je dors avec le Soudan.
Wijdan Meki est issue d'une famille soudanaise très impliquée dans la lutte pour les droits de l'homme. Depuis la France, elle récolte et analyse de nombreuses vidéos des manifestations.
Quand on voit les gens de la NISS, en fait, le service secret du Soudan, voilà, ils tapent. J'ai plein dans mon téléphone ici des vidéos que les amateurs ils ont fait. On voit que l'agent de sécurité il est en train de taper des hommes ou des femmes et il voit ça. C'est envoyé, voilà, moi je récupère, je donne voilà, Amnesty à la fédération. Et puis voilà, les manifestations, par exemple, pour les universités, ils ont tapé vraiment les garçons. Et puis il y a eu deux morts. On documente tout ça avec des vidéos par amateur. Mais bien sûr, le gouvernement soudanais il va dire que ça n'existe pas. Il y a eu un nombre important des étudiants tués. Bon, le gouvernement il parle d'une quarantaine de personnes avec Amnesty International. On a le nombre de 64 et plus, donc en 3 mois, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Donc on veut un changement de régime, on veut que ce soit radical cette fois-ci.
Un changement radical, c'est pourquoi les manifestants ne lâchent rien et se réunissent à nouveau. Ce jour-là, nous sommes place de la République. Pour la diaspora, il reste encore beaucoup à faire dans cette révolution. Amir Bachir est enseignant de français en langue étrangère. Il est installé en France depuis 6 ans.
Nous, en tant que jeunes, entre nous, on discute comment on peut avoir un changement réel. Parce qu'en fait, le changement, ce n'est pas seulement le départ du président. On a pas mal de choses à faire, à préparer. On fait des petites réunions sur les réseaux Facebook. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Soudan de demain? Et donc, on prépare ça et c'est là où commence la révolution. Donc c'est à partir du départ du président, c'est là où qu'on a commencé. C'est pas encore fini, ce n'est que le début en fait.
Et s'il y a bien une chose qu'il retient de cette révolution, c'est l'union de son peuple. Il rappelle qu'il a rarement vu dans son pays des Soudanais si différents en termes de couleur de peau, de langue, de classe sociale et de religion, se parler, échanger et s'unir dans un but commun. Le changement. Alors pour Amir, vivre tout cela à distance est un déchirement.
Franchement, c'est le moment où je me suis senti que je suis faible parce que je ne pourrais pas être avec mes collègues, mes amis, mes proches et tous les Soudanais. C'est vraiment pour moi un moment que j'ai raté dans ma vie et je regrette.
Son collègue traducteur Obeida El-Sadik, arrivé en France il y a 30 ans, partage ce sentiment.
C'est le moment le plus difficile pour nous. On a même une expression qui dit « ce qui tue ». C'est le fait d'être loin de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vraiment, c'est une fête. Il faut être là pour vivre ça. Nous, on le vit de loin. C'est difficile pour nous. Les gens, ils sont en train d'écrire l'histoire du Soudan actuel. Et heureusement, ce qu'ils ont dit et ce qui nous encourage encore plus, c'est qu'ils disent, grâce à vous, à l'extérieur, à l'étranger, nous, on a pu vraiment faire ce qu'on a fait. Et finalement, ça a complété en fait ce qu'ils ont commencé là-bas. Mais la victoire finale, c'est eux-mêmes qui ont créé l'histoire du Soudan, c'est eux-mêmes, les jeunes, qui ont créé l'histoire d'aujourd'hui.
Réfugiés soudanais en France, exil, intégration et révolution, une rediffusion du grand reportage de Domitille Piron, réalisation Pierre Chaffanjon, à retrouver sur RFI.fr.